C'est aujourd'hui que nous démarrons en Église, donc tous ensemble, le parcours bâtir sur du solide. Bâtir sur du solide. Je crois que c'est une bonne résolution pour cette année 2010, n'est-ce pas, de bâtir nos vies sur du solide. Il s'agit d'un ensemble d'études bibliques basées sur le fameux sermon sur la montagne. Ce sermon qui a été prêché par Jésus, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Cet enseignement où le Seigneur Jésus propose à ses disciples un programme de vie, mais un programme de vie radicalement différent de ce que le monde leur offre. Ces études bibliques préparées par le pasteur Louis Schweitzer ont été préparées pour être faites en 6 semaines. Nous allons les faire en 6 mois. Nous allons prendre le temps. Donc nous allons le faire de janvier jusqu'au mois de juin. Et nous allons justement prendre le temps pour pouvoir, permettez-moi l'expression, mâcher et remâcher cet enseignement précieux que le Christ nous a laissé. Vous savez que le sermon sur la montagne est connu de beaucoup de monde et même de certains athées qui trouvent ce discours très fort, très intéressant. Il y a donc 6 études bibliques à faire, d'abord, je dirais, individuellement, chacun chez soi, et ensuite dans les groupes de maison. Et bien sûr, l'idée, c'est que dans les groupes de maison, on partage en commun, donc ensemble, avec les autres membres du groupe, le résultat de nos découvertes et de nos réflexions, en tout cas de certaines de nos découvertes et certaines de nos réflexions, parce que je suppose qu'il y a certaines choses que nous allons les garder pour nous-mêmes, n'est-ce pas, sont peut-être personnelles, ça nous concerne, nous et notre Seigneur. Mais il y a des choses, sans doute, que nous allons pouvoir partager les uns avec les autres pour l'enrichissement, pour l'édification mutuelle. Et chaque étude biblique sera introduite ici à l'Église par l'un de nos 4 prédicateurs chaque 2e dimanche du mois. Nous vous encourageons donc à rejoindre un groupe de maison, ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, Émilie, tout à l'heure, va nous encourager vraiment à rejoindre les groupes de maison et à vous procurer le livret ou le fascicule contenant ces études. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire partie d'un groupe, je ne le souhaite pas, je souhaite que tout le monde fasse partie d'un groupe. Mais si vraiment vous ne pouvez pas faire partie d'un groupe, demandez au moins le livret pour faire ces études à la maison. Je crois que nous avons là une aide vraiment précieuse qui nous est offerte, qui nous permet de progresser dans notre foi et de bâtir des vies vraiment sur du solide. Le titre de ce parcours, « Bâtir sur du solide », est donc inspiré de ces dernières paroles de Jésus prononcé lors de cet enseignement qu'il a donné sur la montagne, sur la colline. Cette colline constitue au nord du lac de Galilée, au lac de Génézareth, cette colline qui a été appelée depuis Mont des Béatitudes, parce que vous savez que les Béatitudes font partie du sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Il est inspiré donc d'une image que Jésus utilise, celle des 2 constructeurs, l'homme sage, avisé, qui a bâti sa maison sur le roc, et l'homme insensé qui a bâti la sienne sur du sable. Même s'il s'agit d'une illustration bien connue, je pense que c'est toujours une bonne chose de lire ce que le texte nous dit. Et donc, je vous propose de lire Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Jusqu'au verset 27. Je lis dans la traduction dite du semeur. « Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. » Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, Ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée et grand fut sa ruine. Profitons également pour lire le passage qui fait partie, le passage de base de notre première étude biblique. Elle se trouve dans Luc chapitre 3, versets 1 à 14. Luc chapitre 3, versets 1 à 14. Je lis toujours dans la traduction dite du semeur. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconite, Lysanias sur la Bilène, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il disait « Faites-vous baptiser pour montrer que vous changez de vie, et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. » Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a fait croire que vous pourrez échapper à la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous contentiez pas de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Les foules se demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste leur répondit, « Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient aussi se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» N'exigeant rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ?» N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Nous avons dans le premier passage, donc la parabole, l'image, l'illustration avec laquelle Jésus conclut son sermon sur la montagne ce jour-là. Image bien connue de nous tous, celle de la construction de maisons. Nous en voyons partout, et même ici à côté de notre église, n'est-ce pas? Il y en a une qui est presque en train de se terminer. Et comme à l'époque de Jésus, dans ce domaine de la construction, on peut dire qu'il y a toujours des maisons très bien construites, bâties sur des fondements solides et avec des matériaux adaptés à toutes les conditions climatiques et atmosphériques, et d'autres qui ne le sont pas, d'autres dont la construction laisse vraiment à désirer. Vous savez que au Japon, qui est une zone sismique par excellence, n'est-ce pas, les maisons et les bâtiments sont bien construits, construits de manière à résister aux tremblements de terre. Ce n'est pas le cas, hélas, dans beaucoup d'autres pays où il y a parfois des milliers de morts, tout simplement parce que les maisons sont mal construites. Il suffit une petite secousse pour que les maisons s'écroulent et fassent des millions de morts. J'ai vu dans certains villages en Afrique des maisons construites en terre, à même le sol. Et quand il y a une forte pluie et que les eaux commencent à monter un petit peu, quelques centimètres, et les maisons s'écroulent très vite parce qu'elles n'ont pas de fondement. Elles sont construites à même le terre et sans aucun fondement, donc c'est normal qu'elles s'écroulent. Il y a donc plusieurs types de constructions et il y a aussi plusieurs types de constructeurs, Jésus le dit, n'est-ce pas, ceux qui sont sages, avisés, sérieux, qui prennent le temps de construire du solide, du résistant, et ceux qui font finalement du vite fait et du n'importe quoi, parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce qui peut survenir, n'est-ce pas ? Ils ne tiennent compte de rien, ni des fondations, ni du matériel. Ce qu'ils veulent, c'est construire vite fait. Et c'est pour cela que Jésus emploie aussi, associé à cette image de la construction, l'image des vents qui soufflent fort, des inondations et des tempêtes que nous connaissons aussi apparemment de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que les tempêtes sont réelles, elles ont toujours existé, elles existent et elles existeront encore. Et il faut en tenir compte, mais aussi parce que ce sont les tempêtes qui vont effectivement révéler la qualité de la construction. La différence fondamentale entre une maison bien construite et celle qui ne l'est pas sera révélée le jour où il y aura une forte tempête. Jésus utilise donc cette parabole non seulement pour illustrer son enseignement, mais surtout pour nous parler d'une autre construction beaucoup plus importante que celle des maisons, la construction de nos vies. La construction de nos vies. Et il utilise cette illustration pour nous dire surtout comment nous devons bâtir nos vies. Il nous dit qu'il y a deux manières de bâtir nos vies. Soit nous le faisons de manière sage, responsable, je dirais dans tous les domaines de notre vie, soit de manière insensée. Nous ne tenons compte de rien, nous avançons à l'aveuglette. Et il nous rappelle au passage, parce que parfois, peut-être nous avons tendance de l'oublier, n'est-ce pas ? Il nous rappelle au passage que nos vies sont sujettes à des tempêtes. Et peut-être Il vaut la peine de rappeler que si vous n'avez pas encore passé par des tempêtes, sachez qu'un jour la tempête viendra sur vous. On ne peut pas échapper aux tempêtes de la vie. Je crois que c'est impossible. Un jour ou l'autre, une tempête s'abattra sur nous. Nous devons tous, un jour ou l'autre, faire face à des difficultés, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, soit au niveau de nos biens, soit au niveau de notre corps, de notre propre santé. Un jour, la tempête viendra sur nous. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à la tempête ? Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, il n'a jamais trompé ses disciples, il leur a toujours dit la vérité, « Dans le monde, vous aurez à souffrir des épreuves, des contrariétés, des adversités. Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Or, nous savons bien que lorsque tout va bien, nous ne pensons pas toujours à la manière de bâtir nos vies. Il y a beaucoup de choses qu'on met de côté. Nous bâtissons souvent sur n'importe quoi. On pourrait dire même sur du sable, sur des choses qui sont éphémères. Tant que tout va bien, pas de problème. Avançons à fond la caisse, faisons la fête. Le jour où la tempête s'abattra sur nous, que les eaux montent et commencent donc à tout envahir et à nous submerger, à submerger nos vies, c'est à ce moment-là que nous allons nous rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui a manqué dans la construction de notre vie. Il a manqué sans doute l'essentiel, des fondements solides dans tel ou tel domaine, des matériaux qui résistent à telle intempérie. Jésus nous dit que pour bien bâtir nos vies, nous devons les construire sur un fondement solide. Un fondement solide. Un fondement capable de résister aux tempêtes. Or, la question qu'on doit se poser est celle de savoir quel est ce fondement solide. Quel est ce fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos vies? Quel est ce roc inébranlable sur lequel nous pouvons et devons bâtir nos vies? L'apôtre Pierre exhortait les gens à s'approcher de Jésus. Disait-il, « La pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » La pierre précieuse, vivante, choisie par Dieu. Cela veut dire que l'invitation est pour nous aujourd'hui. Venons à Jésus pour bâtir nos vies. C'est vrai que celui qui ne bâtit pas sa vie sur Jésus court à sa perte. Il court à sa perte. L'apôtre Pierre disait, à qui d'autre irions-nous? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Il faut donc venir à lui, l'accepter d'abord comme sauveur, comme Seigneur de sa vie, et bâtir sa vie sur lui. Mais dans la parabole qui nous occupe ce matin, celle des deux constructeurs, Jésus donne une réponse encore plus précise à cette question du roc sur lequel nous devons bâtir nos vies. Et cette réponse est cette petite phrase qui apparaît deux fois dans le texte. Il dit « Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire, hein, qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » Et après il dit « Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Les paroles que je viens de dire. Les paroles qu'il vient de dire, c'est le sermon sur la montagne, c'est cet enseignement qu'il a dispensé ce jour-là sur la colline. Le roc dont il est question ici, c'est donc son enseignement, ses paroles. Bâtir nos vies sur cet enseignement, basé sur le sermon sur la montagne, c'est bâtir sur le roc. On pourrait dire la même chose sur tout l'enseignement du Seigneur. Mais ici, dans ce texte, c'est l'enseignement qu'il vient de dispenser sur la montagne. Et Jésus explique ce qu'il entend par bâtir sur ses paroles et sur son enseignement. C'est non seulement écouter, bon, aujourd'hui on pourrait dire c'est non seulement lire l'enseignement que nous avons dans Matthieu 5, 6 et 7, prendre connaissance de ce qu'il nous dit, de ce qu'il veut nous dire, Mais c'est aussi mettre en pratique dans nos vies ce qu'il nous dit dans son sermon sur la montagne. Mettre en pratique son enseignement dans nos vies de chaque jour. Vous avez remarqué que dans cette parabole, ce qui différencie les deux hommes, le sage et l'insensé, c'est justement la mise en pratique de l'un et la non-mise en pratique de l'autre. Il y a un qui met en pratique et l'autre qui ne le met pas en pratique. C'est le faire ou le ne pas faire ce qu'il dit. En fait, Jésus est en train de souligner ici la nécessité d'accorder nos actes à ce que nous recevons de lui, d'accorder nos actes à sa parole, à son enseignement. La nécessité de mettre en pratique ses commandements, ce qu'il nous dit de faire. La nécessité, finalement, d'obéir, un mot qu'on n'aime pas trop entendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Obéir à sa parole. Si nous voulons bâtir des vies qui resteront debout au moment où la tempête s'abattra sur nous, nous n'avons pas de choix. Nous devons bâtir sur son enseignement. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi. C'est une expression que j'aime beaucoup, l'obéissance de la foi. Ce n'est pas simplement la foi, c'est l'obéissance de la foi. C'est-à-dire une vie chrétienne qui se traduit par des choses concrètes dans notre vie de chaque jour, par des actes, et notamment par notre ancienne manière de vivre dans ce monde. Vous avez remarqué que dans le deuxième texte, celui qui parle du ministère de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste exigeait de ceux qui s'approchaient de lui pour se faire baptiser au moins deux choses, qu'ils soient honnêtes et qu'ils partagent. Je crois que nous avons là deux choses très intéressantes pour le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Où il y a beaucoup d'exploitation et beaucoup de choses qui se passent terribles. Une partie du monde qui vit dans l'abondance et une autre qui crève de faim et de souffrance, n'est-ce pas? L'honnêteté et le partage. Ah, si le monde mettait en pratique ces deux principes-là, l'honnêteté et le partage. Mais si le monde ne le met pas en pratique, au moins que le peuple de Dieu, les chrétiens, le mettent en pratique. L'honnêteté dans tous les domaines, non seulement dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, conjugal, dans le domaine des relations, dans tous les domaines, l'honnêteté et le partage. Jean-Baptiste leur disait, montrez par vos actes que vous avez changé, que votre vie a changé. Montrez par vos actes. L'enseignement du Seigneur, ses paroles, ses commandements sont bons, agréables et parfaits, nous dit un autre texte de la parole de Dieu. Ces paroles, affirmait Jésus à une autre occasion, sont esprit et vie. C'est dans ces paroles, finalement, que nous trouvons la vie, la meilleure manière de faire face à notre vie ici-bas. Ce sont ces paroles qui nous conduisent à la vie éternelle. Ces paroles ont le pouvoir de changer nos vies. Mais lorsque j'étais en train de lire ces textes, je me suis dit, mais c'est vraiment dans ce domaine-là de la mise en pratique que nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Nous avons du mal dans ce domaine-là de la mise en pratique, dans ce domaine de l'obéissance. Dans ce domaine-là, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous connaissons sans doute beaucoup de choses de la Bible. La plupart d'entre nous peuvent citer des textes bibliques par cœur. Nous connaissons beaucoup de choses de l'enseignement du Seigneur. Mais ce que le Christ est en train de nous dire ce matin, c'est que cela ne suffit pas. Connaître ne suffit pas. Il faut encore pouvoir mettre en pratique ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Il faut encore savoir l'appliquer dans nos vies. Et ce, finalement, pour notre bien à nous, pour notre bonheur. Jean affirme que celui qui dit connaître le Seigneur, mais qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, dit-il. Jacques dit que ceux qui ne se contentent pas d'être des auditeurs de la parole, mais qui la traduisent en actes, qui la mettent en pratique, seront heureux dans tout ce qu'ils font. Voulons-nous être heureux ici-bas, mener une vie heureuse avec le Seigneur? L'enseignement de Jésus nous est donné surtout pour que nous le mettions en pratique. Il nous est donné pour changer effectivement nos vies, notre manière de vivre dans ce monde. Et c'est intéressant de voir que d'un bout à l'autre de la Bible, il nous est dit que Dieu souhaite avoir dans ce monde un peuple qui vit d'une manière différente des autres. Un peuple à lui, un peuple de gens qui vivent autrement, avec des critères de vie différents. Un peuple de gens qui sont le sel de la terre et la lumière du monde, encore un enseignement du sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Des gens qui ne se conforment pas à la manière de vivre des autres peuples, mais qui se conforment à la parole du Seigneur. Peu après avoir délivré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu leur dit ceci, « C'est moi le Seigneur votre Dieu. Ne faites pas ce qui se fait au pays d'Égypte où vous avez habité. Ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan où je vais vous faire entrer. Ne suivez pas leurs lois. Mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. » Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Hélas, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance a souvent manqué à sa mission, n'est-ce pas? Ils ont souvent fait des choses, les mêmes choses que les peuples païens environnants. Et Dieu était obligé de leur rappeler toujours quelle était sa volonté. Il appelait des prophètes pour parler, pour prêcher au peuple. Les prophètes leur ont souvent dit, n'est-ce pas, de ne pas se conformer aux mœurs des nations environnantes. Mais comme le peuple de Dieu persistait toujours à vivre comme les autres peuples, le jugement de Dieu s'est souvent abattu sur le peuple de Dieu. Ils ont souvent été punis et ils ont été même amenés en captivité pendant plusieurs dizaines d'années. Le projet de Dieu pour le monde est toujours le même. Avoir ici sur cette terre un peuple à lui, un peuple différent, un peuple saint, c'est-à-dire séparé de la manière de vivre du monde, un peuple qui met en pratique les commandements de Dieu, son enseignement, un peuple qui obéit à ses lois, un peuple qui ne prend pas exemple sur la manière de vivre de ceux qui l'entourent, mais sur le Christ qui est venu nous montrer le chemin que nous devons suivre. Une phrase qui apparaît dans le sermon sur la montagne de Jésus, c'est celle-ci. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Je dirais que c'est notre mission, de ne pas ressembler aux gens du monde. Démarquez-vous du monde. Brillez comme des lumières. Que votre justice dépasse celle des autres, nous dit-il. Que votre amour soit plus grand, plus noble que celui de ceux du monde. Aimez même vos ennemis. Contrôlez votre tempérament. Vivez dans la pureté sexuelle. Ayez une manière correcte de vous exprimer. Pardonnez-vous mutuellement. Encouragez les autres au lieu de les critiquer. Et tant d'autres choses que nous allons découvrir dans ce sermon sur la montagne. Je pense que si bon, certains disent, mais c'est tellement difficile de mettre en pratique ces choses. Mais nous devons, je pense, en tant que serviteurs du Seigneur, enfants du Seigneur, tendre vers, vers la mise en pratique de ce que le Seigneur nous dit. L'objectif de ce parcours, bâtir sur du solide, finalement, est de nous aider. De nous aider à avoir ce désir de confronter notre vie à l'enseignement du Seigneur. Confronter notre vie à ce que Jésus nous dit. C'est de nous aider à avoir ce désir d'aller plus loin dans la mise en pratique concrète de ces enseignements que nous allons découvrir dans le sermon sur la montagne. Il nous faut donc prendre le temps, et c'est pour ça que nous prenons 6 mois, hein, 6 mois pour bien décortiquer ce que le Seigneur nous dit, mais aussi pour le faire dans une attitude de prière, parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de découvrir ce que le Seigneur nous dit de faire, il s'agit encore de vouloir le mettre en pratique et demander son aide pour mettre en pratique ce qu'il nous dit. Donc, prendre le temps de lire, de méditer l'enseignement du Seigneur dans un esprit de prière, de réceptivité et surtout de soumission à sa parole, soumission à la parole du Seigneur. Le mieux, sans doute, c'est de consacrer un petit peu de temps chaque jour, n'est-ce pas, pour lire une petite portion de ce sermon sur la montagne et d'avancer petit à petit. Si vous voulez commencer par une lecture des 3 chapitres, pourquoi pas? Mais après, il faut revenir petit à petit pour avancer doucement et vraiment s'approprier de cet enseignement du Seigneur. Et je dirais aussi, là aussi, nous devons, soyons honnêtes et vrais avec nous-mêmes. À chaque lecture, posons-nous la question, dans quelle mesure est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours ce que je viens d'apprendre, là, ce que je viens de lire maintenant de l'enseignement du Seigneur. Et acceptons d'aller toujours un peu plus loin avec lui, d'y voir un peu plus clair. Et pour cela, donc, prenons le temps, n'ayons pas peur de revenir sur le même texte, sur le même sujet, pour pouvoir avancer. Avançons doucement, mais avançons dans la connaissance du Seigneur. Et prenons aussi des notes, pourquoi pas, prenons des notes, parce que sans doute qu'il y a des choses intéressantes à mettre en commun, n'est-ce pas, dans les groupes de maison, à partager avec les autres. Mettre en commun avec les autres pour nous encourager mutuellement les uns et les autres. D'ailleurs, l'Église sert à ça aussi, les groupes de maison servent à ça aussi, c'est de pouvoir avancer ensemble dans la connaissance et dans la mise en pratique de ce que le Seigneur nous dit. Mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous examiner nous-mêmes à la lumière de l'enseignement du Seigneur et de lui demander son aide. Son aide, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avancer. La première leçon s'intitule « Les 2 premiers pas ». Vous allez voir ça bientôt. Il ne s'agit pas tout à fait du sermon sur la montagne, mais de son préalable, le message de Jean-Baptiste que nous venons de lire. Comme vous savez, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus, celui qui est venu préparer le chemin du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'essentiel de son message a été repris par Jésus-Christ lui-même. Et l'essentiel de son message était celui-ci, convertissez-vous et changez de vie. Convertissez-vous et changez de vie, changez de comportement. Et quand ses auditeurs lui demandent, que ferons-nous, Jean-Baptiste leur dit des choses très concrètes, adaptées à leur vie de chaque jour. Par exemple, ne plus faire ce dont ils avaient l'habitude de faire dans leur domaine professionnel, de ne pas être ni malhonnête dans leur manière d'exercer leur autorité ou leur profession, ni égoïste, ni abuser de leur autorité, mais d'être honnête, juste, miséricordieux, d'accomplir fidèlement leurs devoirs et, bref, de donner des signes de repentance par des œuvres concrètes, des œuvres bonnes en faveur de leur prochain. Je n'en dirai pas plus ce matin parce que Je pense que c'est une bonne chose que chacun de nous puisse découvrir cet enseignement lui-même. Ce que je peux dire, c'est que c'est un enseignement qui peut vraiment transformer nos vies, qui pourrait transformer la société si la société était capable de mettre ces principes en pratique. Mais déjà à nous, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, de donner l'exemple. Une dernière chose, peut-être qu'à tel ou tel moment de l'enseignement du Seigneur, on se sentira un petit peu découragé en se disant « je ne serai jamais capable de faire ce que le Seigneur nous dit. Je ne serai jamais capable de mettre cela en pratique, c'est trop difficile. » Sachons que Dieu nous connaît. Il nous connaît bien et sachons aussi que le Seigneur nous aime et veut nous aider dans nos faiblesses. C'est lui qui peut nous aider à mettre en pratique sa parole. C'est lui qui nous donnera la capacité et la force nécessaires. Et je pense à ce texte de l'apôtre Paul, pour terminer mon propos de ce matin, où il dit, l'apôtre Paul qui dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc nous sommes en route. Nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour mettre en pratique les enseignements du Seigneur avec son aide. Mais cette œuvre sera parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, ne nous décourageons pas. Allons de l'avant avec le Seigneur, parce que lui est avec nous pour nous aider. Il nous accompagne dans ce chemin passionnant sur lequel il veut que nous marchions et bâtissons donc sur du solide. Que le Seigneur bénisse sa parole.